La grande forme, le dossier du jour.
On va parler des amygdales aujourd'hui avec notre invité. C'est le docteur Patrick Levy, chef de département tête et cou et chef de service ORL au Chirec sur le site Delta. Bonjour docteur.
Oui, bonjour monsieur.
Bienvenue
bonjour.
Dans la grande forme. Alors aujourd'hui, les amygdales sont au programme de notre émission. Est-ce qu'on peut déjà commencer par expliquer ce que sont des amygdales en fait ?
Donc les amygdales font partie d'un ensemble de tissus qu'on appelle l'anneau de Waldeyer, qui se trouve au niveau de la bouche. Donc vous avez d'abord ce qu'on appelle les amygdales, classiquement les amygdales palatines, mais vous avez également des amygdales qui se trouvent à la base de langue et ce qu'on appelle les végétations. Dans le temps, on appelait ça les polypes. Sur cet ensemble de tissus, c'est un tissu immunitaire qui intervient dans la défense, la première barrière immunitaire.
D'accord. Elles sont constituées de quoi, en fait, ces amygdales ? C'est quoi à l'intérieur ?
Donc, il y a du tissu fibreux, il y a des vaisseaux, et alors il y a des follicules lymphoïdes qui contiennent des cellules immunitaires. Mais par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est que le nombre de cellules immunitaires n'augmente pas avec la taille de l'amygdale, au contraire. Donc, des grosses amygdales sont souvent moins efficientes que des petites amygdales.
Pourquoi est-ce qu'elles grossissent, les amygdales ?
Parce qu'elles sont stimulées, par exemple, par des infections.
Okay.
Donc, à chaque infection, l'amygdale gonfle et grossit. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que des tissus immunitaires, comme ça, vous en avez partout dans la bouche. Et que, finalement, les amygdales de végétation ne contribuent que pour une petite partie de l'immunité. Donc, tout ça pour dire que si on enlève les amygdales, on en parlera tout à l'heure, on ne va certainement pas diminuer l'immunité de la première ligne.
Mais le reste des cellules prennent le relais.
Elle participe d'emblée.
Oui, ok.
Oui, c'est ça, elle participe d'emblée et donc effectivement les amygdales peuvent être autant importantes, mais effectivement il y a d'autres choses qui permettent de créer cette immunité.
5-10% peut-être.
C'est ça, ok. Alors concrètement, quand on était petit, enfin en tout cas quand moi j'étais petit, il y a 30 ans, j'entendais souvent des copains qui se faisaient opérer des amygdales, on devait les enlever, c'était un truc hyper trash, on avait l'impression que c'était vraiment quelque chose de très compliqué à gérer au niveau de la post-opération. Est-ce qu'on fait ça encore maintenant, l'ablation des amygdales ?
Oui, donc tout à fait. Vous avez raison, effectivement, de parler un peu histoire, parce que il fut un temps pas très lointain où effectivement on les enlevait à tout le monde.
Pourquoi en fait ? Quel était le diagnostic ?
Ben bon, je pense que les gens considéraient que c'était à risque, c'était également
gênant.
Et puis il y avait une maladie à l'époque qu'on appelait le rhumatisme articulaire aigu, qui était une infection due au streptocoque qui faisait des anticorps contre les valves cardiaques. Donc c'était quand même assez embêtant. Donc on préférait les enlever systématiquement. Et à partir des années 70, c'est un peu plus nature, on a considéré qu'il fallait les garder et on ne les a plus du tout enlevés. Et puis après, 5 ans, 10 ans après, dans les années 80-90, on a pris un peu de recul par rapport à tout ça et on s'est rendu compte que finalement, avec la période où on les enlevait à tout le monde, on avait moins de soucis que ceux que les gens qui les gardaient encore. Donc maintenant, on prend une leçon de ces deux périodes, on ne les enlève plus systématiquement, bien entendu, mais lorsque il y a une indication, on n'hésite plus à le faire.
Mais alors c'est quoi l'indication ? À quel moment est-ce que vous vous dites, bon ben là franchement on va les enlever ou là on peut les laisser ?
Donc il y a plusieurs indications. Donc la première, je l'ai abordée tout à l'heure, ce sont les angines. À partir de 3-4 angines, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire.
3-4 angines par an, vous voulez dire ?
Par an, c'est
ouais,
ça.
C'est ça, ok.
Il ne faut pas oublier qu'une angine, c'est une semaine d'absence de l'enfant à l'école, mais parfois un des deux parents aussi. C'est douloureux, donc ça fait quand même beaucoup d'inconvénients pour l'enfant et pour les parents. Alors, les autres indications, c'est le ronflement et les apnées. Donc un enfant qui a des très très grosses amygdales ronfle et respire pas bien. C'est des enfants qui sont un peu apathiques, fatigués le matin, ils n'ont pas beaucoup de punch. Je pense que c'est une indication qui est de plus en plus prise en compte.
D'après certains articles, 2% des enfants font des apnées.
Pardon ?
D'après certains articles, 2% font des apnées du sommeil. 2% des enfants font des apnées du sommeil.
Ah oui, oui. Bah, ça dépend en fait de la taille. Mais des enfants qui ont des grosses amygdales, vous savez, on appelle ça d'une manière un peu sympathiques, les kissing tonsils, donc les amygdales qui se touchent, qui s'embrassent, bah, vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour respirer, donc ces enfants font presque tous des apnées. Alors, il y a le problème orthodontique aussi. De plus en plus, la beauté prend de l'importance dans nos sociétés, et avoir de belles dents qui sont bien alignées, c'est très important. Donc, une des causes d'un défaut d'alignement des dents, surtout entre les dents supérieures et inférieures, c'est la présence d'amygdales trop volumineuses qui poussent la dent, la langue, qui elle-même pousse les dents. Donc, ce sont des enfants qui, la nuit, ont leur petite langue qui se trouve coincée entre les dents. Vous imaginez que toute la nuit pousse l'attention. Donc, ça, c'est une indication. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que les orthodontistes nous envoient ces enfants-là vers 12-13 ans avant de placer l'appareil. Un appareil orthodontique. Mais si on avait pu le faire peut-être à 2 ans, peut-être que cet enfant n'aura jamais eu besoin de son appareil orthodontique. Donc je pense que si les parents voient un enfant qui respire par la bouche, qui ronfle et qui a cette petite langue entre les dents, je pense qu'ils doivent consulter un orthodontiste ou un généraliste ou un ORL pour en parler, il faut mieux prévenir que guérir.
Oui, c'est très bien, vous avez bien raison de le préciser, effectivement, parce que c'est un chouette indice à donner effectivement à nos auditrices, nos auditeurs. On parle aussi, évidemment, j'imagine, de petits problèmes qui peuvent survenir au niveau des otites, au niveau des oreilles, suite à ces amygdales.
J'y arrivais. Donc, avant de parler de ça, je voudrais encore parler d'une autre indication, mais qui est plutôt à l'âge adulte, ça, ce qui est plus embêtant, parce qu'on avait des amygdales à l'âge adulte, c'est vraiment très, 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 très pénible. Mm-hmm. Je pèse mes mots. Et c'est l'halito, c'est-à-dire la mauvaise odeur.
Ah ben voilà,
dans les amygdales, vous avez des petites cryptes dans lesquelles les aliments viennent se bloquer, et ça crée des petites boules blanches, qu'on appelle du caséum, et qui sont excessivement mauvais. Il nous arrive de devoir enlever des amygdales pour ça, sauf s'il n'y a qu'une seule crypte, alors là, on fait du laser, en consultation, sur une anesthésie locale. Mais s'il y a plusieurs cryptes, c'est difficile de faire du laser, alors là on est obligé d'enlever l'amygdale. Alors effectivement, la dernière indication, c'est le problème au niveau des oreilles. Donc entre l'oreille et le nez, vous avez un tuyau qu'on appelle la trompe de Stache, et qui normalement s'ouvre quand on déglutit ou qu'on bâille, on mastique. Et si l'enfant a des grosses végétations, c'est plutôt les végétations que les amygdales, mais ça fait partie du même organe, hein, l'anneau de Waldeyer. S'ils ont des grosses végétations, effectivement, le liquide qui est produit dans l'oreille ne parvient pas à s'écouler et il s'accumule dans l'oreille. C'est ce qu'on appelle une otite séromuqueuse qui provoque des sourdités temporaires. Les enfants perdent 30% plus ou moins. Alors, à ce niveau-là, c'est pas très grave, mais si ça évolue, le tympan peut se rétracter, ça peut donner d'autres pathologies qu'on appelle cholestéatome, des érosions des osselets. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Donc il faut effectivement veiller à ce que l'oreille moyenne soit bien ventilée et que le tympan ait une bonne position.
Alors, on parle souvent de cette fameuse opération, hein, qui est très douloureuse apparemment, qui après l'âge de 10 ans est très complexe à gérer. Pourquoi c'est si dur, cette opération ?
Oui, donc effectivement, c'est vraiment pas agréable, mais au plus on le fait tôt, au moins c'est désagréable. Mm-hmm. Donc vers 2 ans et demi, c'est l'âge idéal, mais à l'âge adulte, c'est vraiment pénible. Bon, pourquoi ? Parce que c'est très innervé comme région.
D'accord.
Et que lorsqu'on enlève l'amygdale, vous avez au niveau de la bouche plein de bactéries qui vivent là d'une manière naturelle et qui colonisent la zone opérée. Ça provoque une petite plaque blanchâtre qu'on appelle la fibrine. Mmh. Et tout ça fait excessivement mal.
Des petites inflammations aussi qui sont douloureuses. Il y a, on conseillait par, j'ai l'impression quand j'étais petit, j'entendais mes potes qui pouvaient manger de la glace parce qu'ils s'étaient fait opérer des amygdales. C'est vrai, ça?
Tout à fait.
Ça permet d'anesthésier, en fait.
Le froid est un très bon anesthésiant.
Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières pour ce genre d'opération ?
Les contre-indications, c'est surtout des problèmes de coagulation éventuellement, mais il n'y a pas de réelle
problématique liée.
Alors pour les techniques chirurgicales, donc vous avez la technique classique et la plus utilisée, qui est la dissection, où on enlève la capsule. Alors c'est vrai qu'on voit apparaître maintenant, venant des pays scandinaves, des techniques qu'on appelle ultracision, coblation, radiofréquence, où là, on enlève l'amygdale, mais en laissant la capsule, qui semble provoquer moins de douleur. et moins de risques hémorragiques. Parce que ça, c'est un élément qu'on n'a pas abordé, c'est que le risque de cette opération, dans les 15 jours qui suivent, c'est des hémorragies.
Mmh. Donc il y a des gros saignements qui peuvent poser problème. Ouais. Ici en Belgique, on pratique déjà alors ce type de chirurgie ?
Oui, on le fait, mais il y a quand même, bon, il n'y a pas que des avantages. D'abord, comme je le disais, on a un trait capsulaire, donc ça veut dire qu'on laisse du tissu immunitaire. Donc si jamais ce tissu est de nouveau stimulé, ça peut reprendre du volume. Mm-hmm. Donc il y a des risques de récidive et un aspect qui n'est pas négligeable, c'est le coût. C'est que ce sont du matériel qui est assez cher, usage unique. Donc moi je suis un peu écolo pour ça et ça me dérange, j'avoue, de chaque fois utiliser un instrument qui va être jeté après, qui va polluer. J'attends patiemment qu'on nous fasse des
alternatives
qui sont stérilisables, parce que là, c'est vraiment une très bonne alternative.
Merci beaucoup en tout cas, docteur Levy. Je rappelle que vous êtes chef de département tête et cou et chef de service ORL au Chirec sur le site Delta. Et merci d'être intervenu dans notre émission. Je vous souhaite une belle après-midi, docteur.
Dans quelques instants, c'est encore la grande forme sur Vivacité.